Donc la séance de la semaine prochaine portera sur des questions de droit du travail et on aura un contrepoint entre la situation française, la situation des réseaux, qui sera présentée par Madame Elsa Peskin, qui est présente d'ailleurs quelque part dans la salle, qui est maître de conférence à Paris-Ouest-Nanterre, et puis Monsieur Yesung Park, qui est chercheur à l'Institut coréen du travail, qui viendra nous donner donc un point de vue extérieur. J'aurais aimé qu'on puisse avoir dans ce séminaire davantage d'ailleurs de points de comparaison étrangers, mais bon, nous sommes dans des limites budgétaires que nous sommes obligés de respecter, bien entendu. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet de la responsabilité solidaire par le versant des entreprises et du droit de l'entreprise. Vous vous rappelez que nous avions, il y a 2 ans, consacré le séminaire à l'entreprise dans un monde sans frontières. C'est d'ailleurs un séminaire dont les travaux ont été publiés aux éditions Dalloz. Et ce colloque examinait les transformations profondes de l'entreprise, l'entreprise dont la définition juridique première, si l'on veut la saisir en toute rigueur, est de se définir d'abord comme une liberté. Toutes les tentatives de la rabattre, soit sur le contrat, soit sur l'institution, ne fonctionnant pas, puisque l'entreprise peut se diffracter en une multiplicité de personnes morales. Et ce qui est commun à toute entreprise, c'est la liberté d'entreprendre. Mais les formes d'exercice de cette liberté, les modalités qu'elle prend de nos jours, se sont profondément transformées, sans, semble-t-il, que cette transformation soit toujours très présente dans l'esprit, y compris du législateur, si j'en juge par exemple au débat actuel sur la réforme du droit du travail, qui semble encore fixé sur une conception de l'entreprise comme une sorte de, je dirais, qui m'évoque Paul Durand, pour ceux qui ont la mémoire longue des débats de droit du travail, c'est-à-dire comme une institution avec un employeur qui est vu comme un exécutif ayant aussi des fonctions législatives, et une communauté de travail stable avec laquelle on pourrait négocier une loi de l'entreprise, c'est-à-dire d'envisager l'entreprise comme un ensemble homogène, stable et formant une petite société politique indépendante. Il est clair que les formes contemporaines d'organisation, de mise en œuvre de la liberté d'entreprendre déjouent le plus souvent cette façon de voir, et que la liberté d'entreprendre est le plus souvent aujourd'hui relative, qu'elle inscrit nécessairement celui qui l'exerce dans des liens d'allégeance, que ce soit pour dominer des entreprises fournisseurs ou sous-traitantes, ou pour dépendre d'entreprises donneuses d'ordre. Et nous avons, lors de l'exposé du professeur Mark Friedland la semaine dernière, l'une des remarques qu'il faisait, qui me paraît mériter d'être retenue pour le cas français à partir de l'expérience anglaise du self-employment, est que le travailleur réellement autonome, entrepreneur de lui-même, est une vue de l'esprit, et que très rapidement, ou bien son succès fait qu'il va devoir compter sur des gens qui vont dépendre de lui, et alors il va se retrouver dans une position semblable à celle d'un chef d'entreprise, ou bien dépendant de dispositifs techniques, informatiques, informationnels, il va devoir s'intégrer à un groupe qui lui fournit les moyens de son travail, et il va se retrouver dans une situation de travailleur dépendant, quand bien même celle-ci ne serait-elle pas qualifiée d'emploi salarié. Donc ce qui caractérise aujourd'hui les évolutions de la mise en œuvre de la liberté d'entreprendre, c'est cette façon de tisser des liens d'allégeance. Et ceci, évidemment, transforme considérablement la façon dont se trouve posée la question de la responsabilité. Cette question de la responsabilité, nous l'avions abordée aussi lors du colloque, celui-là, de juin dernier, je l'ai évoqué lors de la première séance du séminaire, Et toute une partie de ce colloque, qui a aussi été publié lui aux presses universitaires de France, évoquait les problèmes de responsabilité de l'entreprise. Et la difficulté par rapport à ce modèle ancien qui semble encore habiter l'esprit du législateur, comme je l'indiquais, c'est que dans le modèle ancien d'une entreprise intégrée avec un pouvoir réellement souverain à sa tête, la responsabilité peut être tout entière placée dans le chef de ce souverain de l'entreprise, du dirigeant. Il a le pouvoir, il est responsable. C'était ça l'idée. Dans les chaînes de production, au contraire, la responsabilité, bien entendu, se déploie sur l'entièreté de ce lien d'allégeance. J'ai évoqué la dernière fois l'exemple topique de l'affaire du Rana Plaza, où il est clair que le sous-traitant ou le fournisseur qui se trouve au Bangladesh a une responsabilité personnelle dans la catastrophe et la mort dramatique de plus d'un millier d'ouvrières, mais que sa responsabilité ne peut pas être totale dans la mesure où lui-même agit sous la dépendance et le contrôle de donneurs d'ordre qui lui imposent des conditions qui limite sa capacité de prendre des décisions qui assureraient la sécurité des salariés. Et donc on est face à ce problème nouveau dans ces nouvelles constructions de l'organisation économique, d'une distribution des responsabilités, c'est-à-dire on doit être responsable dans la mesure où on exerce, où on concourt au pouvoir. À la question de savoir qui est responsable en dernier ressort, lorsque il n'est pas possible d'identifier un responsable déterminé. Ce sont ces questions que nous allons donc aborder ce matin. Je remercie très chaleureusement mes collègues d'avoir bien voulu venir nous apporter leur lumière sur ces sujets. Tout d'abord, le professeur Bruno Dondero, que je vais vous présenter un peu plus dans un instant, et aussi le docteur Samuel Jubé, qui dirige l'Institut d'études avancées de Nantes, qui avait déjà contribué au séminaire sur l'entreprise que je viens d'évoquer. Donc, le professeur Dondero est agrégé des facultés de droit, bien sûr, et actuellement professeur à l'université Panthéon-Sorbonne. Et il a suivi un double cursus droit français, droit italien à l'université Paris-Ouest-Nanterre. Je le précise parce que je sais que nous avons des collègues italiens dans la salle, donc les questions pourraient être posées en italien éventuellement. De même d'ailleurs qu'à Samuel Jubé qui parle l'italien comme sa langue maternelle. Donc il a soutenu une thèse consacrée au groupement dépourvu de personnalité juridique en droit privé, qui a été édité aux presses universitaires de Marseille en 2006. Et il a été ensuite professeur à l'Université de La Réunion, puis à l'Université de Picardie, avant de rejoindre donc l'Université Panthéon-Sorbonne, dont il dirige le Centre audiovisuel d'études juridiques, enfin plus large, des universités de Paris, le CAVEJ, qui est un service interuniversitaire qui assure l'enseignement par les moyens modernes que j'évoquais tout à l'heure, notamment les MOOC, ça doit être, vous occupez des MOOC. Bon. Par ailleurs, il a publié toute une série d'ouvrages et d'articles, principalement dans le domaine du droit, avec cet aspect un peu de dinosaure qu'on finit par avoir avec l'âge, je continue d'appeler le droit commercial, mais ça ne s'appelle plus comme ça, c'est le droit des affaires, sur le droit des marchés financiers. Et notamment, c'est lui qui est en charge de la chronique du droit des marchés financiers à la semaine juridique et à une chronique sur les sociétés par action à la revue trimestrielle de droit commercial et sur le gouvernement d'entreprise à la revue trimestrielle de droit financier. Il est l'auteur d'un hypercours. Alors, vous pourrez nous expliquer ce qu'est un hypercours par rapport à un cours de droit des sociétés qui est dans la troisième édition est paru aux éditions Dalloz en 2013. Il y a peut-être une édition. Il y a une quatrième édition en 2013.
C'est 2015.
Alors, la quatrième édition 2015. Et il est co-auteur avec Paul Le Canu du précis de droit des sociétés aux éditions Montchrétien. Enfin, j'ajoute pour vous présenter qu'il vient de publier un un ouvrage qui a été remarqué parce que les facultés de droit sont des lieux marqués par un certain conservatisme, ce qui n'a pas que de mauvais côtés, puisqu'on entretient des traditions. Mais l'interrogation sur les transformations dans la façon de l'enseigner et le pratiquer n'est pas si courante. Et il vient de publier un ouvrage qui s'intitule « Droit 2.0 », c'est bien ça, et sous-titré « Apprendre et pratiquer le droit au XXIe siècle », qui est paru à la LGDJ 2015 et qui tente justement, qui tente de dépoussiérer un peu notre façon d'enseigner et de pratiquer le droit. Je le remercie vraiment chaleureusement d'avoir bien voulu accepter de participer à ce séminaire. Il devait rester pendant toute la durée du séminaire, mais il a, du fait que ces moyens modernes pour noter les obligations sont parfois défaillants, il devra nous quitter un peu avant midi pour aller à un autre colloque. Donc, je vous passe immédiatement la parole. Alors, ce qui conduira peut-être à avoir la discussion sur l'exposé de M. Dondero dans la foulée de sa présentation et avant la pause, alors que la dernière fois, on avait essayé d'avoir une discussion générale fondée sur l'audition des deux rapports de la matinée. Donc, merci encore et donc, vous avez la parole.